Bienvenue au podcast des questions d'Alexis, espace où l'on discute de la place du marché du carbone dans l'atteinte des cibles climatiques. Je suis votre animatrice, Alexis, et aujourd'hui on situe l'importance de l'achat local dans les marchés du carbone. Pour répondre à mes questions, je suis accompagnée de Martin Clermont, PDG d'entreprise Les Solutions Wheel et expert en la matière qui nous suit tout au long de notre série. Bonne écoute! Donc Martin, bonjour! Bienvenue à notre émission spéciale sur la COP26.
Bonjour Alexis, c'est un plaisir de te reparler en 2022, au début du printemps 2022.
Oui, exactement. Bien, je dis émission spéciale parce que ça fait quelques mois quand même qu'on a enregistré notre série d'épisodes. Aujourd'hui, bien, on vit en force pour cet épisode sur la COP26, mais la COP26 qui a elle aussi eu lieu il y a quelques mois. On revient, on fait un petit bilan, on regarde comment ça s'est passé. On en entend beaucoup parler de la COP26 dans les médias, sur Internet. Mais concrètement, Martin, c'est quoi exactement la COP26?
Ben, écoute, si tu me permets, je vais te répondre du point de vue de l'entrepreneur que je suis. Alors, je ne suis pas un expert climatique universitaire, je suis vraiment plus orienté sur l'action. Et tu sais, quand on se parle aujourd'hui, printemps 2022, on parle de la COP26, je trouve que ça fait une éternité dans ma tête. Depuis, je pense, en termes d'agenda politique ou médiatique, on a vu arriver une quatrième vague de la COVID, l'inflation galoper un peu partout sur la planète, crise énergétique en Europe, guerre Russie-Ukraine. Bref, pour moi, les enjeux climatiques n'ont pas changé, sont toujours aussi importants, mais c'est comme si quand tu me parles de la COP26, en regard d'aujourd'hui, je trouve ça loin. Mais écoute, la COP26, c'est quoi? C'est la conférence ou c'est la grande messe de tous les pays annuels concernant les changements climatiques, la Convention sur les changements climatiques. La 26 était la 26e. Écoute, ça fait déjà 26 conférences des parties qu'on a. La première qui a eu lieu à Berlin en 1995, suivie de l'accord de Kyoto en 1997, 2015, l'accord de Paris. Et on arrive en 2021, parce que ça a eu lieu en novembre 2021. Alors, si je me rappelle bien, oui, il s'est passé beaucoup de choses. Oui, il y avait beaucoup d'ambition dans l'air, pas seulement à Glasgow, pas seulement dans les bars de scotch, mais dans tous les pays, même ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour aller sur place.
Oui, justement, on dit, ça fait longtemps, on voulait voir, je pense, un peu quelques mois plus tard, c'était quoi les retombées de la COP26? Il y a eu beaucoup d'ambition, mais on va voir s'il y a des trucs qui se sont passés ou si ça a justement passé dans le beurre, comme on peut dire. On en a tellement parlé de la COP26 en octobre, en novembre dernier. Il y a plusieurs personnes qui disaient que la COP26, mais c'est la plus importante de toutes à ce jour. Mais pourquoi est-ce que pour certaines personnes, c'était la plus importante?
Bien, si on suit la logique de la Convention des changements climatiques des Nations unies, suite à l'accord de Paris, dans cet accord-là, tous les 5 ans, les pays devaient se représenter à table pour relever leur, ils appellent ça le NDC, National Determined Contribution, leur contribution volontaire de leur climatique. Et à cause de la crise sanitaire, ça a été décalé d'un an. Donc, c'est pour ça que c'était important. On a écouté beaucoup d'ambition dans différents pays, sur différents continents. Et donc, il y avait comme une pression où dans l'air, on voulait vraiment, où il y avait un espoir qu'au moins sur le plan d'ambition, qu'on atteigne la cible d'1,5 degré de réchauffement, si possible. Et si je regarde les résultats, j'ai compris, on a même au niveau de l'ambition, là, qui est seulement un désir, un souhait nommé, on est en haut de 2 degrés. Alors, voilà.
Oui, parce que tout ça est volontaire. Il n'y a pas de police internationale qui va venir sanctionner les pays qui ne respectent pas leur engagement ou leur ambition. Puis justement, pour essayer du moins de sécuriser le 1,5 degré Celsius, est-ce que cette conférence-là portait sur certains angles ou certains secteurs d'action pertinents puis spécifiques pour nous aider à le faire?
Oui, en fin de compte, au-delà de l'ambition, là, des cibles des pays, il y avait quand même des thèmes intéressants. Il y a eu des accords parallèles, comme entre autres, je trouve intéressant sur le méthane. Alors, on en avait entendu parler quelques mois avant, Mais il y a un engagement des pays pour réduire de 30 % les émissions de méthane en 2030, ce qui est quand même important parce que le méthane, on parle des gaz à effet de serre, des émissions de GES, on associe souvent ça au CO2, mais le méthane est un des gaz importants et qui a un impact, l'équivalent par rapport au CO2, qui est très important. Donc, moi, je trouve ça positif, cette entente-là. Et on va voir finalement, encore une fois, comment ça va se matérialiser au cours des prochaines années. C'est très ambitieux.
Oui, puis justement, en parlant du méthane, c'est à prévoir que les émissions de ce gaz-là vont augmenter dans les années qui s'en viennent à cause, bon, de la fonte du pergélisol, puis la fonte des sols gelés dans l'hémisphère nord, puis aussi à cause de l'augmentation de l'agriculture, puis dans le fond, de l'élevage des bovins qui émettent des gaz méthane. Donc, oui, c'est vrai que c'est une entente assez pertinente. Puis, est-ce que selon toi, tous les thèmes qui devaient être couverts l'ont été faits de façon juste et équitable, ou est-ce qu'il manquait des choses, est-ce qu'il y a des trucs qui n'ont pas été abordés, qui auraient dû l'être?
Écoute, c'est sûr, dans une convention comme ça ou dans une rencontre, il y a des sujets qui prennent le haut du devant de la scène, de la discussion. Ce qu'on a comme entente, c'est les résumés des discussions pour un consensus. Donc, il y a sûrement des choses qui n'ont pas été abordées ou qui n'ont pas été nécessairement, je dirais, adressées, c'est le bon terme. Alors, mais je regarde avec recul. Il faut toujours situer ces discussions-là ou ces rencontres-là comme étant des efforts diplomatiques. Comme tu as mentionné très bien, Alexis, c'est des engagements non contraignants sur une volonté, sur une ambition qui, une fois cette rencontre-là terminée, chacun des pays doit retourner chez eux et regarder comment ils vont mettre en action leur ambition commune.
Puis, ce serait quoi si on avait à dégager les plus grandes réalisations de cette COP26-là? Est-ce qu'il y aurait des ententes ou des actions qui sont dignes de mention?
Bien, écoute, le méthane, moi, je trouve que c'est important, c'est intéressant. L'entente aussi sur la déforestation, bien que, écoute, il y avait déjà eu une entente en 2014, et là, c'est comme se recommettre à viser d'arrêter la déforestation en 2030. C'est sûr, ça laisse des gens un peu, comment je pourrais dire, frustrés ou déçus parce que ça n'a pas été fait et ça revient à l'agenda comme étant une action. Mais il y a eu, j'appelle ça, un nouvel engagement en souhaitant que finalement ça se matérialise. Ça, c'est important. D'accord? Parce que moi, je regarde ça, la déforestation, très inquiet. Je regardais le film de David Attenborough sur le documentaire 2020. En 1937, on avait, je pense, c'est 65-66 % de l'espace sur la Terre était vierge, non utilisé par l'homme. On est rendu en 2020, je pense, c'est 33 % ou 31 %. Wow! Moi, ça m'inquiète personnellement. Alors, c'est sûr que avoir un réengagement au niveau des pays pour arrêter cette déforestation-là, c'est essentiel. Puis il va y avoir des enjeux tout à fait importants avec la hausse de la population. On va avoir besoin de nourrir ces gens-là. Il va falloir qu'on envisage de passer de la protéine animale, de la protéine végétale, bref, que de beaux projets pour des entrepreneurs.
Oui, puis je pense aussi que dans le texte final là, qui a été produit à la fin des 2 semaines de négociations, puis corrige-moi si je me trompe, Martin, mais il y avait aussi beaucoup de. Il y a eu des engagements à abandonner le charbon, puis à arrêter les subventions aux énergies fossiles. Puis c'est la première fois qu'on le fait dans un texte des Nations Unies, puis d'utiliser un vocabulaire aussi explicite à l'instar de ces industries-là. Donc, ça aussi, je pense que c'était quand même digne de mention, puis on pointe dans la bonne direction à ce niveau-là.
Tout à fait. C'est des mots qui ont été mis, puis bien que je lisais un article comme quoi les représentants du lobby de l'énergie fossile mondiale, toutes les entreprises d'extraction ou de traitement des huiles et gaz sur la planète avaient une délégation très importante. Alors, ça a été mentionné, alors en nous souhaitant que la parole soit suivi d'action. Mais déjà, regarde dans l'entente sur le méthane, capter le méthane des puits d'extraction de pétrole pour pouvoir, au lieu de le laisser fuir à l'air libre, de pouvoir le capter et le traiter, c'est déjà, ça va être une intégration dans les opérations, c'est déjà un pas dans la direction. Oui.
Oui, donc il y a vraiment des beaux trucs ou des beaux engagements qui ont été faits après cette conférence-là. Mais dans les médias, à la suite des 2 semaines, il y avait beaucoup de gens qui étaient déçus par la COP. Il y avait beaucoup de déceptions, beaucoup de critiques. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens étaient déçus?
Bien, ce que j'en ai compris, écoute, il y a des gens qui le vivent directement et plus les changements climatiques sont impactés directement et dès maintenant. Pense aux pays dans les insulaires, dans l'océan Pacifique ou les Caraïbes, que le niveau de mer les affecte. Et il y a de certains pays qui sont en mode d'être décolonisés, de devoir déplacer leur population. On parle de 5, 10, 15 ans. L'île va être complètement inondée. Alors, ces gens-là, c'est bien l'entente sur le méthane, mais concrètement, pour eux, ce qu'ils vivent n'est pas été, comment je pourrais dire, ne se sont pas sentis écoutés sur leur réalité qu'ils vivent. Et en plus, il y avait, si je ne me trompe pas, il y avait la crise sanitaire, il y a certains gens qui n'ont pas pu se déplacer à Glasgow. Donc, tu sais, le virtuel, c'est bien. Le présentiel, ça donne, comme on dit, un peu un langage. Plus complémentaire, je dirais, comme expression.
Ouais, donc la COP26, on peut dire que c'était un pas devant, mais quand même un petit pas relativement à celui qui aurait dû être fait. Et il y a beaucoup de gens, comme tu viens de le mentionner, qui n'ont pas pu faire entendre leur voix dans des problématiques, des changements climatiques qui sont importants puis qui n'ont pas été abordés. Puis il y a aussi en marge de la COP26, le World Wildlife Fund qui a identifié 5 secteurs clés de l'ambition climatique, soit d'accélérer la décarbonation, de protéger les écosystèmes, d'aider les écosystèmes naturels et humains à s'adapter au changement climatique, à financer l'avenir, puis d'induire un pivot vers la mise en œuvre d'actions stratégiques à long terme. Est-ce que tu changerais ou est-ce que tu ajouterais quelque chose à ces priorités-là qui me semblent, moi, à mon avis, assez pertinentes et importantes?
C'est assez complet. C'est déjà, je dirais, la table est mise. Rajouter quelque chose par-dessus. Quand on parle de la finance, de la conférence de Glasgow, je trouvais ça impressionnant qu'on a commencé à discuter quel serait le coût pour arriver finalement à un net zéro carbone en 2050. Et on parlait, moi, de chiffres, j'ai de la misère à sortir ma calculatrice, 170 000 milliards de dollars US requis. Et, wow!
C'est beaucoup
C'est
d'argent.
immense. Alors, j'ai de la misère à voir comme entrepreneur quand on agit localement sur des projets par projet ou réduction de tonnes par tonne ou sa séquestration. C'est immense, ces montants-là. Ouais.
C'est des montants immenses, puis c'est aussi des engagements, puis de l'ambition qui est assez importante aussi, là, ce que ça va demander pour les gouvernements puis pour toutes les parties prenantes. Selon Équiterre, le gouvernement québécois est reparti de Glasgow avec la même cible qu'à son arrivée, donc celle d'une réduction de 37,5 % de ses émissions de GES d'ici 2030 par rapport à 1990. C'est une cible qui respecte ni la science du climat ni le principe de la juste part. Alors, ce serait quoi les solutions pour impliquer davantage les parties prenantes, puis à élever l'ambition justement, puis à instaurer le respect des engagements de ces gens-là?
Bien, écoute, je te dirais, c'est une décision politique de regarde, au Québec, on aura des élections en octobre 2022. Alors, ça sera c'est la démocratie qui va nous dire quelle va être la motivation du changement. Mais je pense qu'il faut retenir de Glasgow, c'est des engagements politiques, mais l'action climatique n'est pas limitée à des gestes politiques, que ce soit des niveaux municipaux, au niveau des États, provinces ou des pays. Il faut l'avoir sur l'ensemble des parties prenantes. Et moi, j'aime bien comme entrepreneur le mouvement qu'on a vu apparaître des grandes entreprises, et là, il y en a des petites, des grandes entreprises sont engagées dans un mouvement sur une base scientifique d'atteindre un net zéro carbone. Et il n'y a pas loin, si je ne me trompe pas, là, 2000 grandes marques qui se sont engagées. Et ça crée un mouvement au-delà des obligations réglementaires. Donc, si tu me dis, est-ce que au niveau politique, il faudrait être plus ambitieux au niveau politique, ben, il faudrait sûrement compter sur l'ensemble des solutions, incluant les mouvements corporatifs et citoyens.
Ouais, puis c'est à différents niveaux justement que l'ambition climatique puis que l'action climatique peut se faire. Ça me fait penser, J'ai lu un article de Radio-Canada qui date de janvier ou février dernier, je suis plus certaine. Mais dans le fond, l'article mettait d'avant l'opinion d'un peuple des Premières Nations du Yukon sur le concept justement des COP. Puis le porte-parole de la communauté, il proposait de défaire le concept d'une grande COP internationale annuelle en comme plusieurs petites COP au niveau distribuées partout à travers le monde pour se concentrer sur les besoins locaux des populations. Donc, son argument principal, c'était surtout que les impacts des changements climatiques mais sont très dépendants des conditions locales. Donc, de débattre et d'opérer de façon concentrée, mais ça permettrait de mieux défendre les intérêts de toutes et tous, puis de mettre en place des actions beaucoup plus facilement. Puis, est-ce que, dans le fond, avec les déceptions qu'il y a eu après la COP26, puis avec les critiques de plus en plus importantes, est-ce que le concept d'une conférence internationale comme ça commence à perdre de sa crédibilité?
Écoute, je pense qu'il va toujours avoir une place au niveau des pays pour au moins coordonner, si ce n'est pas dans l'ambition, mais des gestes ou des actions internationales. Mais la pertinence d'avoir des COP régionales ou des, c'est tout à fait parce que les impacts locaux des changements climatiques sont différents si c'est une population qui vit dans, exemple, dans les îles, dans l'océan Pacifique ou même dans la bande de l'équateur où on va avoir des augmentations de température qui va avoir comme conséquence que ça ne sera plus habitable pour des humains parce qu'on va avoir des 50 degrés Celsius, on va avoir des coups de chaleur. Donc, c'est sûr, les impacts sont inégaux. Donc, oui, avoir des discussions sur le plan local, je pense que la porte est ouverte, là. Ça va prendre les deux.
Oui, c'est vrai. Puis, dans le fond, je sais aussi que la COP26 a été quand même importante au niveau des marchés carbone, tant volontaires que réglementés. On a parlé un peu de l'objectif net zéro en 2050, mais qui est toujours présent puis toujours important au niveau international. Peut-être juste rappeler c'est quoi le rôle des marchés carbone dans l'atteinte de l'objectif net zéro, justement.
Si je le résume en mes propres mots, on parle de l'article 6 de la conférence, l'accord de Paris, conférence de Glasgow, suite à la conférence de Glasgow, c'est utiliser des mécanismes crédit carbone, des CER qu'on appelle, pour échanger, pour être utilisés par les pays pour atteindre leur cible nationale de contribution climatique. Donc, il y a eu quand même des discussions importantes. Donc, c'est un des volets des marchés du carbone, il y a le volet entre pays. Ça n'affecte pas les marchés volontaires du carbone, ça n'affecte pas les marchés cap and trade à l'intérieur des pays. Mais il y a eu des grosses discussions parce qu'il y avait certains pays qui voulaient utiliser des réductions qu'ils avaient faites à partir de 2000 et il y a eu un consensus finalement pour seulement utiliser les crédits qui étaient en place à partir du 1er janvier 2013. Donc, ça a effacé une possibilité d'utiliser ce qui était passé. Il y avait des pays qui travaillaient fort pour plutôt faire reconnaître leur effort de réduction de 2002 à 2012, que ce soit le Brésil, la Chine, l'Inde et la Corée du Sud. Donc, il y a eu un consensus. Tu vois, c'est toujours entre pays. C'est un consensus, c'est jamais une décision votée à la majorité.
Puis, comment on peut utiliser les marchés du carbone pour atteindre l'objectif net zéro de façon pertinente?
Bien, au niveau dans l'accord de Glasgow, alors c'est l'utilisation de ces crédits-là, les CER, qui sont utilisés entre les pays. Maintenant, les marchés volontaires c'est autre chose. Comment qu'on peut utiliser les marchés volontaires? C'est un outil économique, les marchés du carbone. Donc, c'est, dans le fond, si on le regarde d'une façon simple, c'est des réductions de la séquestration de CO2 qui sont faites et qui sont encouragées ou financées par des entreprises ou des gouvernements qui le font sur une base volontaire. C'est seulement ça. Donc, c'est un échange entre des réductions récompensées par je dirais, un chèque économique, si je peux prendre l'expression. Donc, est-ce que les crédits de carbone, est-ce que l'utilisation d'outils économiques peut aider à atteindre? Absolument. Est-ce que c'est une solution parfaite? C'est absolument pas parfait. C'est un marché. Alors, dans un marché, on va rencontrer des distorsions, de la spéculation. Et les crédits de carbone, si les émissions planétaires sont à 50, 55 milliards, il n'y a pas 50, 55 milliards de crédits de carbone disponibles. Alors, voilà.
Donc, d'une certaine façon, il va falloir encourager puis stimuler ou peut-être même sanctionner les pays qui réduisent pas leurs émissions de gaz à effet de serre à la source, parce que comme tu viens de le dire, il y a pas 55 milliards de crédits carbone de disponibles. Donc, en quelque part, on doit pouvoir réduire les émissions de GES de façon quand même notoire et importante avant de compenser avec des crédits.
Tout à fait. Bien, on ne pourra pas sanctionner, je pense, l'entente de Glasgow, on ne pourra pas sanctionner les pays, mais au niveau corporatif, dans leur engagement, puis c'est pour ça que j'aime bien le mouvement, le SBTI, Science Based Target Initiative, c'est que dans le fond, trois grands principes dans ton empreinte carbone, c'est que tu mesures annuellement. Ça te permet de regarder quels sont les projets de réduction que tu peux implanter, que ce soit changement comportemental, tu fais plus, tous tes employés font plus de télétravail, de Zoom, whatever, bien que ça ait une empreinte carbone. Et le reste, tes GES incompressibles, bien, tu te donnes le droit d'aider ton voisin en compensant les efforts des autres pour la quantité de GES incompressibles, acheter des crédits de carbone équivalents ou même de certaines entreprises qui vont être négatifs, ils vont en acheter plus que leurs besoins de GES incompressibles. C'est seulement un outil, là. C'est pas une finalité, les crédits de carbone.
Ouais, puis c'est un concept qui est pas nécessairement nouveau dans le sens que on en parle depuis le début des années 2000, depuis le protocole de Kyoto. Puis justement, à la COP26, les activistes environnementaux, puis aussi les communautés des Premières Nations criaient au bashing, surtout sur ces questions-là de la place qu'occupent les marchés carbone dans l'atteinte de nos objectifs climatiques, sur la crédibilité aussi de l'objectif net zéro émission. Puis, en fond, est-ce que selon toi, ils ont raison de le faire? Puis est-ce qu'ils ont raison d'être un peu craintifs à cet égard-là?
Bien, comme je te disais tantôt sur les marchés du carbone, que ce soit volontaire, réglementé, si tu regardes seulement l'angle de dire que tout achat de crédit de carbone est un droit de polluer, c'est une façon de voir les choses. Mais si tu dis que chaque achat de crédit de carbone derrière, c'est une réduction de GES qui a été faite consciemment par des gestes qui vont au-delà des obligations, c'est l'autre volet à donner, là. Car je dirais, c'est le jour et la nuit, l'œuf et la poule. Il faut balancer entre les deux. Parce que finalement, les crédits de carbone sont achetés, mais ils sont achetés de réductions qui ont été mesurées ou de la séquestration. Donc, il y a quelque chose derrière ça. Maintenant, est-ce que chaque crédit de carbone, comment je pourrais dire, est réel, est additionnel, et pas compté deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois? C'est les enjeux. Il appelle ça les MRV, le Monitoring Reporting et Vérification des crédits de carbone. Moi, j'ai confiance que, écoute Alexis, dans le temps, avec des plateformes numériques, qu'on va être capable de jauger rapidement de la valeur de chacun des crédits de carbone qui vont être mis en marché. J'espère.
Puis justement, tu viens d'évoquer un peu le double comptage ou le triple comptage, le multicomptage, on peut dire, d'un crédit de carbone. Mais ça a été beaucoup discuté, je pense, à la COP26. C'est un enjeu, si je me trompe pas, puis corrige-moi si je me trompe encore une fois, mais c'est un enjeu qui est plus nécessairement d'actualité dans le sens que l'entente de l'article 6 de l'accord de Paris est venue modifier complètement l'option de ou la possibilité de double comptage.
Bien, ça a été adressé effectivement parce que chaque pays avait des cibles de contribution climatique et dans les cibles, ils vont pouvoir tenir compte de l'utilisation de crédits de carbone qui ne seront pas comptés deux fois, d'accord? Donc, un pays ne pourra pas compter les réductions dans ses contributions, les crédits de carbone qui auront été achetés par un autre pays. Ça va être compté des parties répartis entre les deux pays qui feront la transaction. Oublie pas, dans l'article 6, c'est seulement des crédits de carbone, des CER qui sont échangés entre pays. Ça ne touche pas les marchés volontaires.
Puis, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que l'article 6 vient un peu modifier sur les marchés carbone?
Écoute, je pense que c'est le plus gros, je dirais, morceau. On a reconduit l'utilisation des mécanismes de développement propre, donc les protocoles de méthodologie de quantification et vérification. Ça va être à suivre, j'allais dire, dans les prochains mois, possiblement dans les prochaines années. S'il y a une demande dans les crédits de carbone au niveau des pays ou dans les marchés volontaires, nous, ce qu'on voit c'est qu'il y a il y a de plus en plus de demandes, de nouveaux protocoles qui sont en train d'être élaborés. Donc, on voit un engouement ou un besoin finalement de développer des outils pour générer plus de réduction de gaz à effet de serre et utiliser les marchés du carbone, soit réglementés ou volontaires, comme stimulation économique.
Puis pour les marchés volontaires, est-ce qu'il y a des aspects qui ont changé après la COP26 ou ça reste quand même assez pareil?
Ça n'a pas changé, je te dirais, regarde, là, si je le mets dans le contexte géopolitique, c'est sûr qu'avec la crise de la demande énergétique en Europe qui a eu lieu en janvier-février, suivi de la guerre qu'on a entre la Russie et l'Ukraine, il y a l'engouement ou la montée en force qu'il y avait en fin 2021, elle est, comment je pourrais dire, stand-by, là, elle est en attente. Donc, c'est à suivre, là. Mais il n'y a pas eu de changement. Comment je pourrais dire, majeur. On anticipe toujours dans les marchés volontaires une demande qui va être croissante, un manque de crédit de carbone, que ce soit des projets de séquestration de CO2 ou même des projets d'ingénierie, d'éviation des rayons solaires ou captation du CO2 dans l'air pour l'enfouir, le liquéfier et l'enfouir. Il y a beaucoup, beaucoup d'engouement pour l'instant. Il y a beaucoup, je peux noter, de plateformes de trading numérique à l'heure actuelle. Que ce soit en Amérique du Nord, à Singapour, là, il y en a une qui est sortie, qui a été annoncée ce matin à Londres. Alors, à voir, d'accord?
Mais c'est dans le fond ce qui est à retenir, surtout sur la place des marchés carbone dans l'atteinte des objectifs climatiques, c'est que même si on réduit les émissions le plus possible, même avec les technologies dont tu viens de nommer, qui ne sont pas encore nécessairement prêtes à être développées à l'échelle, mais il va toujours rester des émissions de GES qui sont dites incompressibles. Puis je pense que c'est ici, puis c'est la raison pour laquelle les crédits carbone prennent une place pertinente puis viennent jouer un rôle quand même assez important dans l'atteinte de l'objectif net zéro.
Ben, Alexis, je pense que tu as une base comme moi scientifique. Alors, moi, je suis de l'école de Newton. Alors, tout geste a un impact. Alors, il n'y aura pas de solution qui ne générera pas de gaz à effet de serre. Alors,
Puis on ne pourrait pas parler de la COP26 sans parler de la délégation quand même importante de l'industrie des énergies fossiles qui était présente. À chaque fin d'une COP, il y a un texte final qui est produit puis qui est adopté à l'unanimité par les 197 pays qui sont présents. Le texte final de la COP26 marque quand même l'histoire, on le dit un peu plus tôt, mais il évoque explicitement l'industrie des énergies fossiles. Puis malgré la délégation importante de l'industrie qui était présente, est-ce qu'on ressent encore quand même l'influence de l'industrie à ces sommets climatiques internationaux-là, puis à certains lobbies dans les gouvernements?
bien, je pense que ça va toujours être présent. Il était, si je me rappelle bien, il était plus très nombreux. Alors, mais ils sont partie prenante de la transition. On ne peut pas penser de partir d'un point A pour arriver au point B en éliminant complètement le point A. Donc, les opérateurs qui sont les entreprises qui sont dans le secteur d'énergie fossile, que ce soit extraction, raffinage, transport et distribution locale sont impactés. Puis je pense quelque part, ils essayent de trouver leur chemin aussi pour l'avenir. Alors,
Une
l'avenir
belle.
qu'on espère sans, avec le moins d'émissions de GES.
Exact. Peut-être une belle occasion pour eux de se transformer puis d'investir dans les technologies vertes puis les énergies un peu plus propres.
Oui, il y en a certaines entreprises qui sont engagées systématiquement. Là, il y a une grosse compagnie européenne là, qui est très, très active sur ils ont une division d'énergie solaire présente en Afrique et ailleurs. Alors, je pense que la transition, c'est ce qu'on va voir. On ne va pas disparaître du jour au lendemain l'utilisation de l'énergie fossile, mais on va voir même ces entreprises-là commencer à se déplacer vers d'autres productions d'énergie qui vont être renouvelables.
Puis la prochaine COP, la COP 27, dans ce cas-ci, va avoir lieu en 2022, à l'automne prochain, en Égypte, je crois.
Oui.
En Égypte. On va suivre les résultats de cette COP-là aussi, qui risquent d'être quand même importantes. Voilà.
Tout à fait. Écoute, on verra, c'est sûr, dans la séquence à tous les 5 ans, il y a un réengagement d'ambition. On ne le vivra pas. La COP27, j'ai peut-être, est-ce que j'ai moins d'enthousiasme? Comme je te disais d'entrée de jeu, l'actualité fait qu'on a Les changements climatiques sont toujours, pour ma tête, une priorité importante et on doit avoir un changement drastique. Mais dans la mouvance politique médiatique, je trouve que ça a pris un peu deuxième, troisième place.
Oui, effectivement, il y a d'autres enjeux sociaux qui peuvent paraître plus pressants, plus urgents à ce moment-ci, mais il faut oublier que la crise climatique est encore toujours présente et dans le background, si on peut dire, puis qu'on on s'en tirera pas si facilement.
Tu as fait raison, Alexis.
Merci Martin d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve peut-être pour une prochaine fois, peut-être pour un prochain épisode.
Oui, merci beaucoup pour tes animations de podcast. Je te souhaite bonne chance pour ta continuation en recherche scientifique et tu seras toujours le bienvenu chez Will.
Merci beaucoup. Si vous appréciez notre série, je vous invite à vous rendre sur notre site web au www.solutionwill.com où vous trouverez une mine d'or d'informations sur les thèmes abordés dans cet épisode. À la prochaine!